compo au mix, ils font tout par eux-mêmes. Les gars de la plaine n'ont pas de batteur, mais dans leur groupe, ils moissonnent les sons vintage et électro en ratissant large. Ils font feu de tout bois.
En autoproduction depuis 5 ans, les Plaine Men ont engrangé discrètement notoriété et crédibilité. Dans la chaleur de l'été, ils ont entrebâillé pour nous la porte de leur chaumière.
Ou plutôt, quelque part avenue de la Caplette, hôtel de la musique. Hôtel très particulier que cet endroit. Ses couloirs improbables aux ambiances étranges ne nous sont pas inconnus, Coco. C'est ici que nous avons réalisé notre toute première kermesse avec les Hey Ginger.
Alors offrons-nous, Charlotte, un retour aux sources avec des hommes simples, les Plaine Men, qui nous accueillent dans leur minuscule chambre de répétition, sans tambour ni trompette, mais plutôt dans le secret d'une alcôve,
Mélodie,
surchauffée et sans fenêtre.
Je m'appelle Richard, on m'appelle aussi Finca. Je suis la partie instrumentale, enregistrement, synthé, ordinateur, orgue, quelques percus et la voix aussi du groupe Plaine Men.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je ne peux pas le dire parce que des tas de gens me connaissent et c'est illégal. Donc j'en parlerai pas ici. Mais je suis obligé de communiquer entre l'Espagne et la France.
Moi je suis Pascal, je suis le guitariste de Plaine Men. Je suis originaire du quartier de la Plaine, enfin du moins c'est là où je vis en ce moment. Ça fait 4 ans qu'on a ce projet. Et sinon, dans la vie civile, si je puis dire, je suis prof de langue et littérature anglaise et américaine.
Bonsoir, je suis Philippe, le bassiste et chanteur du groupe Plaine Men. Je suis un authentique Plaine Man depuis plus de 20 ans. Et dans la vraie vie, je suis professeur de verbe, pour reprendre une expression chère à Pascal, en anglais.
Better go.
rencontrés ?
Je connais Pascal depuis tellement longtemps, on va pas le dire combien d'années aussi, parce que lui aussi il est dans des affaires bizarres. Et Philippe depuis 2014, et depuis 2014 on est ensemble, je crois, c'est ça pour le groupe. Au début on a pas mal répété, essayé de trouver une formule à trois, comme ça, sans batterie, etc. Et puis là maintenant ça fait 2 ans que c'est lancé vraiment en termes de concerts et tout. Ouais, avec Pascal, on se connaît depuis très très longtemps et on a fait beaucoup de musique ensemble dans les années 90 dans un groupe, on va dire à l'époque grunge fusion. On a toujours fait que nos compos. Moi, c'est la première fois que je me retrouve en groupe. Je jouais dans mon coin avec ma guitare comme des millions de personnes, j'imagine. Et quand je me suis retrouvé en groupe, ça m'a plu. J'aimais bien me montrer, je pense, sur scène, à jouer, à faire mon malin, à ma guitare, à sauter dans la foule, à reproduire ce que j'avais vu dans les concerts où j'allais depuis l'âge de 14-15 ans, parce que j'étais vraiment un ouf de musique. On a accroché, on a fait près de 80 concerts partout, jusqu'à Tours, en passant par des tas de lieux, dans les lieux les plus dingues, comme dans les salles les plus sympas, les concerts les plus agréables en plein air, les tremplins. Voilà, on a développé ce truc live ensemble. C'était chouette, quoi. C'était vraiment chouette, quoi, de faire ce bruit, partager, trouver d'autres personnes et des gens qui même continuent, sont actifs aussi en musique maintenant. C'est génial, quoi. Voilà.
Pourquoi ça s'est arrêté à l'époque ?
Et parce qu'on est étudiant quand même, et au bout d'un moment, en fait, malgré les années que tu redoubles sans arrêt pour essayer de rester dans le groupe et dans la musique, en fait, au bout d'un moment, même si c'est des potes, tu tournes un peu en rond si ça n'évolue pas. Et nous, on a évolué jusqu'à un album. À l'époque, c'était dur. On a fait un CD, on a tourné. Et puis, au bout d'un moment, on était dans ce même truc, on ne sortait pas de ça. Et puis, il y avait de moins en moins de possibilités de concert parce qu'on se concentrait sur nos études, etc.
Alors Pascal, comment sont nés les Plain Men ?
Moi je jouais avec Richard dans les années 90, donc il y a très longtemps. On avait un groupe de grunge un peu fusion. Moi j'étais guitariste déjà à l'époque, je ne joue qu'un instrument, je suis monomaniaque de la guitare. Je connaissais Philippe parce qu'on était à l'université ensemble à une époque et il se trouve qu'on s'est retrouvés à travailler dans le même endroit. En fait, j'ai eu l'idée de réunir les deux possibilités. Donc, la possibilité de faire de la musique électronique avec Richard d'un côté, puisque lui s'était mis à la musique électronique depuis quelques années. Et donc de créer cette rencontre avec Philippe qui chantait, enfin qui chante toujours d'ailleurs, et qui joue de la basse et avec un style différent. Donc c'était une possibilité de créer une ambiance différente en faisant se rencontrer des personnalités différentes. Moi, dans la musique, j'aime l'idée qu'on partage des choses et qu'on puisse venir avec une idée, une culture musicale, une idée préconçue du morceau qu'on peut avoir, par exemple, et que le morceau soit entièrement transformé par le regard et l'oreille et le jeu des autres. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout arriver avec un morceau entièrement fini. J'aime l'idée d'amener quelque chose qui va être enrichi par l'esprit et le jeu des autres. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. On a tous les trois des goûts musicaux très éclectiques et très différents. On a beaucoup de mal, en général, à trouver un terrain commun à tous les trois en même temps. Et c'est cette rencontre-là qui crée, à mon avis, la richesse aussi de la musique en général, de la création, et qui crée aussi l'originalité de notre groupe.
Alors, Philippe, on dit Philippe ou Phil ?
Philippe. Le seul qui a le droit de m'appeler Phil, c'est Richard. Philou.
Donc on dira Philippe.
Comment tu t'appelles ?
Philippe.
Bon, donc eux se connaissaient depuis les années 90, mais moi je jouais dans d'autres groupes avec peu d'activités en concert. Contrairement aux deux autres, j'ai une petite expérience, toute petite expérience de concert. Et donc j'avais un groupe qui s'appelait Mobile, qui s'est arrêté voilà, il y a 5-6 ans. Et en salle des profs, je croise Pascal et on se rend compte que tous les deux, on a envie de remonter un groupe, de refaire de la musique.
Comment tu t'appelles ?
Philippe.
On se connaissait, mais on se connaissait pas musicalement. Et il me parle de Richard et ça a collé. C'était en 2014.
Ouais.
C'est voilà. Toi qui écris les textes, donc ?
Oui, des fois, Richard a des idées de refrains, mais la majorité, c'est moi.
Comment tu t'appelles ?
Philippe.
Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de jeux de mots. franco-anglais, beaucoup d'absurdes. Il y a aussi beaucoup d'histoires d'amour impossible, forcément.
Pourquoi forcément ?
Parce que.
Ce n'est pas une réponse.
C'est mon expérience. Forcément. C'est mon expérience.
Comment tu t'appelles ?
Ta gueule.
Dans votre bio, on peut lire que vous écrivez des textes inspirés très largement de Shakespeare à Ginsberg.
Alors Ginsberg, plus exactement, on avait un morceau où on voulait un passage parler. Pascal avait entendu ce poème déclamé par Ginsberg et c'était parfait. Howl, voilà.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz.
Donc là, voilà, ça collait parfaitement, alors qu'on avait des idées de Reagan ou Bush ou Trump, mais c'était vraiment un peu cliché, alors que là, c'était tout de suite, ça collait parfaitement. C'est une chanson un peu différente des autres, dans la mesure où elle est un peu plus politique, on va dire, sur l'état du monde. Evil Revival, donc il parle un peu de la... On dit que la guerre, c'est mal, quoi, donc c'est courageux quand même.
C'est une prise de position.
Voilà, c'est une prise de position. Mais on le fait avec en restant vague et abstrait. Ça collait parfaitement aussi pour ça. Alors que Reagan, non.
I saw the best minds of my generation. Destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated.
C'est vrai que la question des références littéraires, pour moi, c'est assez important. Et le choix de Ginsberg, pour moi, c'était un vrai choix parce que j'aime la puissance de sa voix quand il lit le texte et que j'avais hésité entre Howl et America, qui sont deux très beaux textes, et par rapport au texte qu'avaient écrit Richard et Philippe, America, qui est une critique que Ginsberg fait de l'Amérique de son temps. Ça s'imposait. Et en fait, rythmiquement, bien sûr, sa lecture de Howl était nettement plus approprié à mettre notre rythme derrière. Et puis c'était un hommage aussi au côté subversif, contre-culture, qui était vraiment, à mon avis, important. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de références littéraires dans les textes de Philippe, et c'est vrai qu'on a parlé de Shakespeare, par exemple, et il se trouve que Shakespeare utilise souvent des références à plain men, en fait, ou plain words. On a un morceau qui s'appelle Honest Plain Words, par exemple, qui est une citation de Shakespeare, et qui est en fait un ensemble de citations d'auteurs dans sa vie.
Shape that resembles you. Take it and use it with a promise.
Compose chez vous?
C'est assez varié. Richard, comme il y a beaucoup de programmation et de synthé, il peut arriver avec des idées qui sont déjà très abouties, qu'on va retravailler en répète. Les premiers morceaux qu'on a eu dans Plain Man sont des morceaux qu'on avait travaillé Philippe et moi, avec une guitare acoustique et la basse, et qui ont été complètement transformés après par l'ajout de tout ce qui était programmation. Globalement, chacun peut arriver avec des idées. Alors Richard est très productif. Phil a aussi beaucoup de morceaux de son côté. Il compose très rapidement des paroles. Il est très, très doué pour ça. Moi, j'ai mes compos également. Et donc, soit on arrive avec un morceau, avec une idée, un plan de morceau, et on va le retravailler tous ensemble. Et puis parfois, je peux arriver, je pense à nos morceaux, la Kabukicho Mon Amour. Moi, j'avais cette ligne de basse, à la base assez jazz. Et je leur ai joué la ligne de guitare, ils l'ont enregistré. Et un jour, je n'étais pas là, ils se sont vus et ils ont travaillé intégralement le morceau tous les deux par ailleurs. Ça a entièrement transformé l'ambiance du morceau. Et moi, j'ai adoré cette idée-là parce que c'était mon morceau, certes, avec une idée assez précise, avec cette ambiance un peu de jazz. Et c'était subitement un morceau complètement différent. Et ça, j'avoue que c'est une idée qui me plaît beaucoup, justement, d'avoir ce croisement d'influences et d'avoir des directions complètement inattendues qui sont données par l'esprit des autres, justement.
Multi-instrumentiste, ouais. C'est ça?
Ouais. Je suis le Rémi Bricard. Tu te souviens du Rémi Bricard? C'est moi le Rémi Bricard du groupe, sans les, avec les pigeons au moins. En fait, moi, je suis guitariste comme Pascal. À la fin des années 90, justement, quand on a arrêté le groupe, j'ai été super intéressé par la production, par les home studios qui naissaient à l'époque, donc qui prenaient un ordinateur ou des multipistes. Et je me suis mis là-dedans et j'ai commencé à composer beaucoup de musique électro, même des trucs hip-hop, des musiques pour des ballets. Et j'ai accroché à cette production électronique. Mon instrument de prédilection, c'est effectivement la guitare. Mais tout ça, ça me permet d'apporter des sons d'orgue, des sons de synthé, de la programmation, des rythmes. Et j'adore ça, quoi. Voilà.
Ampli. Guitare effet vers ampli.
J'ai un synthétiseur qui permet de reprendre des sons de mes synthétiseurs que j'ai en studio, qui sont des synthétiseurs analogiques, comme des Moog, des vieux Roland, des choses comme ça. Donc en fait, je ne veux pas les trimballer sur scène et je ne voulais pas seulement les sampler. Donc j'ai un synthé qui va me permettre de reproduire les sons ou de Moog ou alors les sons d'orgue des années 60 que j'ai aussi chez moi. Et après, j'ai un ordinateur dans lequel se trouve un logiciel qui s'appelle Live. Et ça me permet d'envoyer des séquences que j'ai auparavant enregistrées chez moi, où je retrouve donc les rythmiques, etc. Et donc ça, j'enregistre à base soit d'instruments virtuels, soit de boîtes à rythme, de synthétiseurs réels, quoi, hardware qu'on appelle, et de samples aussi, parce que je sample à l'ancienne, comme dans les vieux disques de hip-hop ou de début de la house, avec des vieux sampleurs Akai, etc. Et après, je rebalance ces trucs-là en live. On n'a pas de batteur en live, c'est remplacé par des séquences rythmiques, etc., auxquelles je rajoute des cymbales pour rendre le truc vivant. Je fais les chœurs et les voix, et après, je peux modifier, grâce à ce type d'instruments qui sont des contrôleurs, je peux modifier les sons et contrôler des sons qui sont que dans l'ordinateur. C'est intéressant de nos jours de faire de la musique comme ça.
Comment ça marche? Comment tu fais pour penser à tout?
Eh ben, des fois, j'y pense pas. Voilà, faut être clair. Je dois taper les cymbales, faire les chœurs et parfois le chant, les synthés, gérer des boucles avec des effets, etc. Et des fois, ben, je le fais pas. Et je trouve que c'est ce qui est sympa aussi, parce que dans notre musique qui pourrait être un peu robotique, ben, y a l'erreur humaine, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Si en live, ce jour-là, moi, j'ai raté 2-3 trucs, mais que l'ambiance et le morceau où les gens ont accroché à ce qu'on a fait, on a gagné, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
Ah!
Donc voilà, là on a affiché, parce que c'est assez difficile de mémoriser, le final du morceau Who the Zoo, où j'ai eu l'idée de prendre une liste d'animaux et d'enlever une lettre pour leur donner ce nom. Et coup de bol, souvent en anglais, ça devenait un autre mot ou un verbe et ça veut dire quelque chose, alors que je suis parti juste du nom de l'animal. Donc je vous lis le début pour vous donner comment ça marche. Ig the pig, Og the dog, Inch the finch, at the cat, hurt the bird, imp the chimp, nail the snail, eel the seal, etc.
Ça veut dire quoi, ig the pig?
Ah, celui-là, rien. Ah, j'ai pas dit que ça marchait à tous les coups. Mais par exemple, nail the snail, ça veut dire clouer l'escargot. Quoi. C'est des jeux linguistiques absurdes qui me plaisent beaucoup, moi.
Et Pascal, pourquoi il ne chante pas?
Parce qu'ils étaient déjà deux à que le relais pour avoir le micro, et je me suis dit qu'il fallait quand même que quelqu'un garde son calme, quoi. Donc. Alors à la base, je suis un guitariste vraiment de métal. J'ai beaucoup travaillé la technique, la rapidité, la vitesse, travaillé des plans pendant des heures. Quand j'étais étudiant, je mettais le réveil, hein, en fait. Je mettais le réveil, je travaillais une heure par jour, puis deux heures par jour. Et tant que le réveil n'avait pas sonné, je continuais à jouer, en fait. Et donc j'ai travaillé beaucoup la technique, j'ai pris pas mal de cours. J'ai vraiment travaillé cet aspect-là pour essayer de maîtriser l'instrument. Avec l'évolution du temps, le fait de rentrer davantage dans les études, rentrer dans la vie active et s'intéresser à d'autres choses dans l'existence, ben ça a modifié mon jeu. Il se trouve qu'à une époque, je me suis retrouvé à habiter à Lille, parce que comme je suis fonctionnaire, j'avais été muté dans cette région nordique. Et je me suis retrouvé à jouer pendant plusieurs années uniquement de la guitare acoustique, ce qui n'était pas du tout mon truc. Moi, j'ai commencé par la guitare électrique tout de suite. J'adorais le vibrato, le son, la saturation, enfin tous les effets qu'on peut produire avec une guitare électrique. On peut produire beaucoup de sons étranges avec une guitare électrique. Et je me suis retrouvé à travailler vraiment la technique de finger picking, de jouer avec les doigts. Et bon, donc j'ai essayé de travailler un certain nombre d'aspects du jazz manouche ou du swing à la guitare. J'aime beaucoup ça. Django Reinhardt, c'est un de mes guitaristes préféré, quoi. C'est un maître absolu, il est très très impressionnant, c'est beau, c'est inimitable. Et par la suite, lorsqu'on s'est revu avec Richard et qu'on a développé Plain Man avec Philippe, tous les trois, bah, j'ai essayé de réintégrer une partie de ces techniques-là. Donc j'ai essayé de mélanger les rythmiques funk que j'ai toujours aimé, parce que techniquement la guitare c'est intéressant, puis j'aime la musique funk. Le côté métal est assez agressif, mais aussi d'incorporer des techniques de jeu qui sont de registres de musique complètement différents.
Un groupe de métal que tu écoutais beaucoup ou qui te servait peut-être de modèle?
Pour ma génération, Metallica, c'est quand même un morceau. Bon, moi j'adore l'album Ride the Lightning et le morceau Ride the Lightning. C'est un très très bon morceau. C'est un album qui doit dater de mémoire de 84 et c'est leur deuxième album.
Racontez-nous vos influences musicales, chacun. Richard.
Il me faudrait une heure et demie, à peu près. Une synthèse. On part du rock quand on est gamin et de The Cure. Et ça restera toujours, je pense, dans mon ADN. Et puis c'est monté, j'ai découvert les 60s et tout. En fait, moi, mon fil conducteur, ça serait le psychédélisme. Mais j'aime bien tous ces groupes qui mettent quelque chose, un petit grain de folie dans la pop. Après Cure, j'ai eu une vague Smashing Pumpkins. Et voilà, le premier album ou le deuxième album. Et après, j'ai découvert d'autres choses. Et puis, je dirais que Bowie, Prince, Stevie Wonder, et après, une moindre mesure, après les trois premiers albums de Björk, et bien sûr toute la French Touch qui va donner la part électronique, etc. Voilà, ça serait mes grosses influences, même si le rock, le 60s et les Beatles, hein, je suis un ouf des Beatles par exemple. Mais tout le monde, il y a 2000 personnes qui peuvent dire ça au mètre carré. If travel is searching, and home, what's been found. I'm not stopping.
Vous n'avez pas de fenêtre, hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Vous n'avez pas les moyens,
On attend d'être augmenté, en fait.
Alors, Pascal, les influences.
C'est très varié également. Je pense que le premier groupe dont j'ai été vraiment fan, c'est les Stray Cats. Beaucoup de groupes de rock, Led Zeppelin, c'est un des groupes que j'ai vraiment adoré, des groupes de métal comme Metallica dont je parlais tout à l'heure, et puis après des groupes un petit peu plus indés comme Fugazi groupe de Washington, qui est vraiment, que ce soit pour l'attitude, le son, le type de chant d'ailleurs, qui est un chant un peu braillé, j'adore Fugazi. Comme Radiohead, Primal Scream, qui mélange justement le son d'instruments acoustiques ou analogiques et la dimension un peu électronique. Ou des choses plus récentes comme Tame Impala, par exemple, je suis très très fan.
Un morceau ?
Moi j'adore Be Above It, c'est un morceau que j'aime énormément sur l'album Lonerism. Un groupe comme Bauhaus, par exemple, m'a beaucoup influencé pour certains sons. C'est la blague entre nous. Je suis un peu le côté sombre, je suis le côté obscur du groupe, paraît-il. Quoi. Je suis le Dark Vador. Sombre mais parfumé, c'est ça.
Alors Philippe, quelles sont tes influences musicales, tes goûts?
C'est parti aussi des mêmes groupes pour tout le monde, c'est-à-dire Cure, Police, Beatles, Bowie. This is Ground Control. Quand j'étais ado, c'était vraiment ça qui a fondé mon amour pour la musique. Après, je m'intéresse beaucoup à des choses très obscures, comme par exemple le genre de Canterbury, donc Soft Machine, Robert Wyatt, ce sont les plus connus, Caravan, voilà, ça c'est pour moi une influence majeure. You look different every time you come from the foam-crested brine. It's your skin shining softly in the moonlight. Je suis beaucoup dans les vieilleries années 60 et 70, j'adore ça, mais j'ai aussi beaucoup adoré les années 90 avec la fusion du rock et du hip-hop, du rock et de la musique électronique, Prodigy, Chemical Brothers, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers. C'est les deux périodes qui m'ont le plus intéressé, et le rock indépendant américain avec Pavement, Stereolab, Beck. Voilà, tous ces gens-là qui mélangent beaucoup d'influences de toute façon. And my time is a piece of wax
falling on a termite. Choking on the splinter. Ton premier concert.
Je pense que c'est Renault, 85-86.
C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu, les pouces, mes gaules et les neveux, les ringards, les folques, les journaleux.
Et mon deuxième concert, c'est Cure en 87. J'aimais beaucoup Renaud. Rita, donne-moi ton cœur. Rita, donne-moi ta main. Rita, donne-moi ta sœur. Rita.
Ça, c'est une chanson d'amour impossible.
Nous partons demain.
Un morceau sur lequel vous tombez d'accord.
Bowie, déjà Bowie, je pense que là, il n'y a aucun problème, on aime tous.
Alors, le trait d'union entre vous.
Sound and Vision, l'album Low. The color of my room, where I will live.
Chemical Brothers nous réunissait un peu. Je veux dire, même si je dis mais Hey Boy, Hey Girl, ouais, on adore ça. Enfin, je veux dire, c'est ça, ça nous a. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est un trait commun. C'est un groupe extraordinaire, n'empêche. Si on se rend compte de ça, il y a du hip-hop, du funk, de l'électro, du rock dans la et du psychédélisme. C'est vraiment un grand groupe. Quoi.
Des Chemical Brothers qui s'appelle Setting Sun. Voilà, qu'on aime tous les trois.
Les mouettes volent bas, c'est la deuxième partie de cette émission. Celle où l'on cherche la petite bête et où l'on prend le risque de tomber sur une grosse. Dans la jungle musicale se retrouvent parfois trois tigres tristes. Les Plain Men ont bien voulu enfiler leur peau de bête pour grogner gentiment à notre micro.
musique à la Capelette, juste derrière la patinoire, où nous n'allons pas souvent.
Vous ne patinez pas?
J'ai essayé une fois et je ne suis pas très convaincu, à vrai dire. Et donc notre local, c'est comment dire, c'est le rêve de je sais pas, moi j'imagine un Texan qui va faire venir des familles hispaniques du Mexique et les entasser là-dedans pour faire un sweatshop, quoi. Ça nous fait hammam, mais les huiles essentielles et tout ça en moins. Encore que Richard en a mis aujourd'hui. Non, en fait, il n'y a pas de fenêtre. C'est un local qui doit faire... ça ferait un bel appartement à Paris, déjà assez cher. Donc on le partage avec un autre groupe. Donc il y a une partie où on stocke beaucoup de matériel. Enfin, ce n'est pas notre matériel à nous, mais il est beau à regarder. Et c'est minuscule. Il y a de la moquette des années 80 au mur. Donc il y a un petit peu des souvenirs des groupes précédents qui sont accrochés.
Mélodie.
Des vieux stickers. Là, on a notre playlist qui est affichée au mur. Quelques paroles, parce que Philippe commence à avoir des problèmes de mémorisation à son âge. Oui, il y a une femme nue là-bas, parce que le rock n'est pas mort, paraît-il. Avec des commentaires que je n'ai jamais lus, j'avoue.
Ça fait un peu chambre d'ado quand même, non?
Oui, un petit peu. On est un peu entassé là-dedans. On songe à s'embourgeoiser peut-être, d'ailleurs. Et ça permettrait en fait de laisser le matériel de façon installé plus facilement pour qu'on puisse venir à jouer si on avait un local un petit peu plus grand. Mais on l'aime bien, d'un côté. Ça fait un moment qu'on est dedans et on s'habitue à l'odeur au bout d'un moment.
Il y a aussi un instrument préhistorique.
Il est à vous ?
Je crois, oui. On s'en sert pas souvent, mais il est à nous.
Vous êtes en autoproduction.
De manière concrète, ça veut dire que l'enregistrement des morceaux, le mixage des morceaux, le pressage sur forme de CD, la distribution numérique, l'utilisation des médias, l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça c'est fait par nous. Ça ne veut pas dire que c'est pertinent et bien, mais c'est une manière de fonctionner.
Oui, c'est un peu cette idée de DIY, de do it yourself. On aime bien faire les choses par nous-mêmes parce qu'il y a un côté, certes peut-être un peu bricolage parfois, mais on aime bien cette idée-là, de pouvoir maîtriser la production du producteur au consommateur, si je puis dire, et d'être capable, avec tous les outils qu'on a maintenant, de faire vraiment les choses comme on a envie de les faire par nos moyens. Par exemple, on a fait un clip récemment sur un morceau psyché pop électronique et l'enregistrement, la composition bien sûr, la réalisation du clip, le tournage des images, tout est entièrement fait maison en fait. Et c'est vrai qu'on arrive de nos jours avec la technologie qui nous est offerte, si je puis dire, on arrive vraiment à faire des choses de qualité, on peut vraiment le faire soi-même et avoir vraiment un produit fini qui tient vraiment la route, quoi.
Est-ce que ça n'a pas ses limites quand même? Est-ce que vous aimeriez pas être produit tout court?
Si, en fait, on a enregistré deux EP avec Richard, enregistré en partie au local et puis après une autre partie chez lui dans le studio de Finca. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est reprendre certains de ces morceaux, maintenant qu'ils ont mûri, qu'on a évolué dans notre son, et les remixer dans un gros studio.
Les petits regrets, par exemple, cette année, on aurait aimé faire beaucoup plus de concerts. C'est ce que tu dis, c'est une des limites où on fait tout nous-mêmes. C'est que trouver des concerts, ben, ça prend du temps. On a un boulot, on a une vie, souvent de famille. Et en plus, c'est un truc qui est hyper compliqué. C'est-à-dire que tu dois appeler, envoyer des mails, en passer un message sur Messenger, les rappeler, etc. C'est frustrant, ça. Parce que nous, on voulait vraiment faire des concerts. Et ça, ça a été notre regret. Et ce qui fait que cette année, on le taffe déjà, quoi.
Alors moi, j'ai toujours envie de plus. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui permet d'avancer. Donc moi, je voudrais plus de dates, plus de répètes, plus de temps. Vraiment, je pense que notre musique, elle donne davantage sa mesure quand on l'écoute vraiment en live. Parce qu'il y a des percussions, parce qu'il y a des voix, parce qu'il y a un côté un peu... Il y a un côté qui n'est pas robotique, au fond, hein, dans ce qu'on fait. Ça donne un côté un peu vivant. Il y a des aspérités, des imperfections. Et ça casse un petit peu le côté très mécanique que pourrait avoir la musique électronique.
Dans notre travail, en dehors de la musique, on partage quand même quelque chose. On a nos valeurs de service public, on veut être près des gens qui galèrent dans la société, etc. Les gens ne le voient pas parce qu'on ne fait pas une musique en train de le dire, quoi. Je ne pourrais pas faire « la société, on va dégrader, voilà, Macron, on va te niquer ». J'arrive pas. Mais nous, on est engagés dans tous les trucs, quoi, possibles.
Avec Richard, on a un côté un peu radical dans la musique, dans la façon d'être, de se comporter. Tout en étant des gens intégrés. Voilà, on ne se fait pas que des copains à cause de ça, d'ailleurs. C'est vrai.
Pas de leader, oh, apparemment.
Que... Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de leader. Je suis pour l'autogestion, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est comme ça.
C'est venu comme ça, c'est venu naturellement, mais c'est vrai, c'est vrai.
Je pense que personnellement, si je me dis je ne vais pas arriver à imposer mes morceaux, c'est parce que je me dis qu'on ne peut pas imposer les choses aux autres de cette manière-là. Il faut que ce soit quelque chose qui se partage et qui se crée de manière collective.
Moi, je fais pour cette espèce de démocratie, mais on la bataille, la démocratie. Nous, on est des casse-bonbons de première, Philippe, il peut le dire, hein.
Ben, ce qui fait du mal, c'est quand on a une idée de morceau qui n'est pas retenue, par exemple. Et ça, ça arrive à chacun de nous trois. Moi, dans mon ancien groupe, j'étais un peu le leader et c'est vrai que j'arrivais à imposer des trucs. Et là, non. Et c'est à la fois une souffrance, mais c'est aussi bénéfique, je pense.
À trois, c'est forcément plus compliqué, parce que ça veut toujours dire qu'il y a deux contre un à un moment ou à un autre.
Ceci dit, il peut y avoir une majorité.
Exactement, il y a une majorité.
And the winner is...
Mais c'est vrai que cette question du leadership du groupe, c'est une question intéressante parce que, bon, déjà, souvent, c'est la personne qui chante qui est perçue comme telle, même si ce n'est pas forcément le cas dans les groupes les plus connus. Ça peut être la personne qui a monté le groupe, ça peut être la personne qui décide de créer les compos, d'organiser le groupe. Et là, justement, je pense qu'on a des caractères assez différents et une perception certainement de l'engagement musical ou sur scène différent aussi. On a des secteurs dans le groupe qui sont différents. Chacun a sa place, en fait, et fait son truc à un moment donné. Et c'est cette complémentarité qui est intéressante.
Peut-on attraper le sida avec un cunnilingus ou le questionnaire compliqué de Coco Molotov? Pas simple pour les Plain Men, mais ils se sont tous les trois piqués au jeu et nous avons croisé leurs réponses.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre!
Pascal, en dehors de la musique, que fais-tu de pas intéressant dans la vie ?
Je travaille.
Philippe, vous faites ménage à trois, ce n'est pas trop compliqué ?
Je ne sais pas, mais pourquoi pas ?
Est-ce que c'est finalement la formule qui marche ?
Peut-être, peut-être, le polyamour, c'est ça ?
Tu es cinglé !
Richard, un batteur rejoint le groupe, lequel ?
J'ai pas envie, j'ai pas envie de batteur.
C'est toi donc qui veux pas de batteur dans le groupe ?
Ouais, c'est moi. On va transporter tout son matos en plus du mien, ça va être chiant.
C'est lamentable comme raisonnement.
Richard, pour quelle collaboration musicale trahirais-tu les Plain Men ?
Ah, il y en aurait plusieurs. Moi, dans la musique, j'ai perdu un gars que j'aimais beaucoup qui s'appelle Zdar. Et ce mec, il m'aurait appelé et je venais tout de suite. Mais en même temps, si Stevie Wonder a mon 06, je quitte les Plain Men.
Philippe, si tu étais un morceau de rock, lequel serais-tu ?
My guitar wants to kill your mama. Frank Zappa.
Richard, si tu étais un morceau de rock, lequel serais-tu ?
Johnny B. Goode.
Pascal, ta chanson culte ?
Massive Attack, Angel, la première de mes années.
Ta chanson cul.
Ma chanson cul, Gainsbourg, c'est quand même quelqu'un qui est très très fort pour les chansons cul.
Donc avec des paroles en français.
Exactement. Peut-être que pour le cul, je suis pas si international que ça.
Philippe.
Ma chanson sexe. I want your sex, George Michael.
Pascal, tu es plutôt drogue ou alcool ?
Drogue pendant longtemps, alcool un peu plus maintenant.
Lequel et laquelle ?
Moi, j'ai beaucoup fumé. Ouais. J'ai beaucoup fumé de pétard, pas pris de drogue chimique. Et pour l'alcool, j'aime le vin, en fait. Ouais.
Quelle serait ta mort idéale ?
Électrocutée avec sa guitare, c'est quand même très rock, quoi. C'est un classique, c'est pas très original, mais ça marche bien.
Et sur scène ?
Tant qu'à faire.
Richard, quelle serait ta mort idéale ?
Je marche dans la rue. Et bam, moi je veux vivre à fond et tomber un jour et emmerder personne.
La playlist de tes obsèques, les trois premiers morceaux.
Unfinished Sympathy de Massive Attack, Reckoner de Radiohead, et puis un morceau de Carlos, je pense, parce qu'il faut quand même pas être trop. Big Bisou, c'est pas mal.
Richard, Richard, la playlist de tes obsèques.
Nick Drake, Pink Moon, Ennio Morricone, Mon nom est personne, un Prince, peut-être Sign of Time. Oh yeah.
Life on Mars de David Bowie, A Forest de Cure et Outer Space Prodigy. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space.
Tu montes au paradis ou tu descends en enfer ?
Ah, moi je vais en enfer tout de suite, de toute façon c'est mort, c'est déjà réglé quoi. Le rapport à Dieu fait qu'il ne va pas beaucoup m'aimer s'il existe quoi, j'ai eu beaucoup de mal sur lui, donc ça va. J'ai dit moins de mal du diable finalement. On le connaît, on sait ce qu'il fait, il n'est pas décevant finalement.
Philippe, tu montes au paradis ou tu descends en enfer ?
Je peux citer des paroles que j'aime bien de The Streets. Je veux aller au paradis pour le climat et en enfer pour la compagnie.
Aux portes du paradis, enfer ? Avec qui boirais-tu des coups pour l'éternité ?
Philly Knott. Allez, Philly Knott, bassiste, chanteur de Finzi.
Richard, redonne-nous la chanson honteuse que tu aimes en secret.
Last night, DJ saved my life. Mais peut-être que c'est pas un truc.
Last night, DJ saved my life. Ton rêve le plus fou pour le groupe ?
Faire une grosse scène, un truc vraiment massif, hein, avec plein de gens. Benny Kassim, ouais. Benny Kassim, ce serait bien.
Philippe.
Faire un concert avec des milliers de spectateurs, faire un vrai album avec un label qui nous aide. Voilà, faire un vrai album qui marque les gens.
Et enfin, Richard, ton rêve le plus fou, le plus dingue pour le groupe.
Ah ouais, un truc de ouf, allez, ça serait quoi ? Une tournée en Amérique. Et finir sur le Machu Picchu.
Future or no future ? Une rubrique qui signe la fin de cette kermesse. Avec déjà deux EP autoproduits, le trio a sorti au printemps un nouveau clip tourné à Tokyo. Ah, le Japon, le pays du soleil levant où le passé rencontre le futur. Un signe pour les hommes de la plaine ?
Alors, on vient de sortir un clip. Qu'on a tourné en grande partie à Tokyo. Moi, je vais souvent au Japon. J'en ai profité la dernière fois que je suis allé pour tourner des images. Et ça a servi de base pour faire un clip d'un nouveau morceau qui s'appelle Kabukicho, mon amour, qui est un morceau qui est essentiellement instrumental, même s'il y a quelques paroles, et qui renvoie une anecdote comique que j'ai pu vivre une fois en allant à Tokyo, mais je ne raconterai pas cette fois-ci, je le garderai pour une autre fois. Cette vidéo, on peut la trouver sur notre chaîne YouTube, Plainmen en double, pour la retrouver. Donc le clip s'appelle Kabukicho, mon amour. Donc ça, c'est ce qu'on vient de sortir. Ça marque, une petite différence de style par rapport à nos autres morceaux. C'est un morceau un petit peu différent. Donc ça marque peut-être une petite différence esthétique par rapport au reste.
Richard.
Avec ça, on a un rêve. Enfin, moi, franchement, je ne sais pas vous les gars, mais moi, j'aimerais que ces titres, ils arrivent, mais qu'on fasse un putain de vrai vinyle. Un vrai album, un vrai vinyle album et tout, quoi. Donc, ça se fait de nos jours. Donc, ça fait un peu, ouais, le gros... Mais c'est vrai que nous, on adore ça. Philippe et moi, on est des écouteurs de vinyle. On y pense et j'avais fait même en surprise une fois. On a un vinyle de notre morceau « Three Sad Tigers ». On l'a en vinyle chacun, en édition limitée. «
our tigers in the jungle. I face our tigers. I face our tigers in the jungle. Three sad tigers. Three sad tigers in the jungle. Three sad tigers. Three sad tigers in the jungle. Three sad tigers. Three sad tigers in the jungle.
D'accord avec ce qu'a dit Richard, sortir un vrai album, sortir un beau vinyle avec une pochette qui s'ouvre. On a déjà des idées, on a déjà pas mal de morceaux, mais ça, voilà, ça coûte beaucoup plus cher de sortir un vinyle que de sortir un CD. Il faut être sûr de pouvoir les vendre après. Donc on attend un peu voilà, que le groupe monte un peu, et on le fera.
Alors comment il va faire pour monter le groupe ?
Ben, plus de concerts, plus de likes sur Facebook, plus de réseaux. On essaye de monter des plateaux avec d'autres groupes pour essayer de mutualiser à la fois les concerts et le public.
Quand on fait, au bout d'un moment, on se décourage parfois. Parce qu'il faut tellement, tellement démarcher, relancer, rappeler que des fois, c'est un petit peu décourageant. Mais c'est du travail, c'est vrai. C'est vraiment du travail. Et des fois, il y a des petits moments où on se dit, bon, est-ce que ça mérite toute cette énergie ? Mais en fait, au bout du compte, oui. Parce que quand on a un bon concert, puis surtout les rencontres qu'on peut faire en faisant de la musique, en jouant, en, en essayant de faire ces rencontres, justement, en les provoquant, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Quoi.
À notre petit niveau, on est un petit groupe, on restera un petit groupe comme ça, on s'en fout, on est très content. Moi, j'aimerais bien que ce petit groupe-là puisse accéder à 50, 40 concerts à l'année, que des articles existent sur des radios, des petits magazines, des fanzines, c'est ça qui me plairait, moi. C'est arriver à ce brin de notoriété, peut-être pour me le prouver, je sais pas vous, mais c'est vrai, pour se prouver, et en même temps, parce qu'on partage la passion de la musique à fond, quoi.
Merci les Plain Men. Au revoir les Plain Men.
Au revoir les Plain Men.
On vous souhaite une bonne et longue route et merci pour cet accueil chaud et chaleureux en toute simplicité.
On vous dit à bientôt et on se dit à très vite. Hein Charlotte?
Mais bien sûr Coco, au fait, comment ça s'est passé toi tes vacances?
Ben, c'était pas mal, d'ailleurs je voulais te dire merci hein, d'avoir gardé mon chat, c'était super.
C'était très très facile, non. Elle est adorable.
Elle était contente, je l'ai sentie bien à mon retour, c'est vraiment, c'était important pour moi, tu vois, c'est un souci quand même. Hein.
Je pense qu'on pourrait l'inviter dans la kermesse en fait.
Ouais, on pourrait lui dire, ouais, et puis un chat pour Charlotte, moi je trouve que ça sonne bien.
Un chat pour Charlotte, ça fait plaisir, merci vraiment.
Je t'en prie Charlotte.